quelque chose de très simple à vous partager ce matin. Du coup, je me suis dit que je ne vais pas vous dire le titre, parce que si je dis le titre, je n'ai plus rien à dire, vous aurez tout compris, il n'y aura rien d'autre. Alors, je vous le dirai à la fin. on a survolé le livre de Nahum, selon les prononciations, les traductions, ce jeudi dernier. Je ne sais pas pour vous, c'est un livre où on ne met jamais les pieds normalement. Je comprends pourquoi. 99,9% du livre, c'est comment une ville va être détruite, tous les malheurs qui vont lui tomber dessus, etc. Mais il y a un très très beau verset au milieu, et un très beau passage qui commence, alors je vous le lis, c'est dans le livre de Nahum, chapitre 1, du verset 2 à 7. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer sa fureur, elle est terrible. Il fait payer ses adversaires, il garde son ressentiment contre ses ennemis. Mais d'un côté, l'Éternel est lent à la colère. Sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. L'Éternel fraye sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la poussière que soulèvent ses pieds. Les montagnes vacillent à son approche, les collines s'effondrent, la terre se soulève devant ses pas. Tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent. S'il se met en colère, qui pourra subsister? Et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie, les rochers se renversent à son approche. Jusque-là, c'est assez terrifiant. Et puis, il y a cette petite phrase-là, ce verset au milieu. « Mais l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Et quand on a lu ce texte-là, et moi je me suis arrêté sur l'idée de refuge. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un mot que je trouve beau et que j'aime beaucoup. Un refuge. C'est un mot qui est utilisé d'ailleurs de nos jours pour beaucoup de choses. Quand vous êtes sur l'autoroute et puis qu'il y a ces petits renfoncements où on peut s'arrêter si on a un souci, ça s'appelle un refuge. Les cabanes en haute montagne s'appellent aussi un refuge. Il y a plein d'endroits comme ça auxquels on a associé ce mot parce qu'il est riche de sens. À l'époque où ça a été écrit dans le texte original, un refuge, c'était plutôt une ville avec des grands remparts très fortes, où on pouvait se réfugier en cas de conflit. Si les gens vous couraient après pour vous couper la tête, vous rentriez dans cette ville, ils fermaient les portes, puis là derrière, on était un refuge, dans un refuge. C'est une belle chose. Et je pensais comment souvent dans nos vies, nous cherchons refuge quelque part. Alors si je remonte un petit peu en arrière, quand l'être humain, avant de choisir de vivre indépendamment de Dieu, vivait dans le jardin qui était celui qui lui avait été confié, il n'avait pas besoin de refuge parce qu'il était en sécurité. Il n'y avait pas de menace extérieure. Vous imaginez ce que ça représente ? Être dans un endroit où la notion de danger n'existe pas de nos jours, même si en Suisse on est particulièrement gâté, c'est probablement un des derniers endroits les plus sûrs sur la planète. Mais même ici, c'est pas comme ça. Mais imaginez que vous vous êtes jamais demandé, est-ce qu'il pourrait m'arriver quelque chose de mal? Est-ce que je pourrais me faire attaquer? Est-ce que je pourrais tomber malade? Est-ce que je pourrais perdre quelque chose de négatif pour m'arriver? Ça, c'était la condition des premiers êtres humains avant qu'ils choisissent de vivre sans Dieu. Donc, même eux ne réalisaient pas parce qu'ils n'avaient pas de point de comparaison. Ils pensaient que c'était normal. Ils avaient toujours vécu comme ça. À partir du moment où ils ont choisi l'indépendance, une des premières choses qui sont arrivées avec la culpabilité, il y a eu la peur. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Ça, c'est ce qu'ils disent à Dieu quand Dieu les retrouve en train de se transformer en couturier et tailleur pour faire des habits avec des feuilles. Quand je dis ça, je me dis toujours, j'espère pour eux que ce n'était pas l'automne. C'est embêtant. Quand les feuilles deviennent craquantes. Voilà. Mais depuis, au fond de chaque être humain, il y a toujours ce désir d'être en sécurité. C'est normal. C'est un des besoins les plus basiques de l'être humain. On doit manger, respirer, dormir, boire. Et puis, on a besoin de sécurité. Et dans l'Ancien Testament, c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit donné aux croyants et que l'Église commence, pas toujours à 100%, mais presque, quand Dieu bénissait des gens, ça se traduisait comment ? Ils devenaient riches, prospères, ils étaient en bonne santé, leurs enfants allaient bien, et éventuellement en plus, ils devenaient célèbres. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu se traduisait, avec peut-être des difficultés et des épreuves, mais Abraham, Dieu l'a béni, il est devenu riche, David, Dieu l'a béni, il est devenu riche, Jacob, Dieu l'a béni, il est devenu riche, Isaac aussi, etc., etc. Alors bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, il y a aussi Jérémie. Il a eu que des galères toute sa vie, ça n'a jamais rien qui a marché, personne ne l'a écouté, on l'a jeté dans une fosse. Donc ce n'était pas à 100%, mais quand même, il y avait cette idée que si on suit Dieu, il va nous apporter la sécurité en sécurisant l'extérieur. Et je pense que pour nous aujourd'hui, d'une certaine façon, ce que nos sociétés matérialistes qu'on appelle de consommation essaient de reproduire, bien sûr il y a des gens derrière qui veulent gagner des sous, ça c'est le but, mais pourquoi ça fonctionne ? Parce que nous sommes demandeurs de sécurité, parce que nous voulons être rassurés et que nous pensons que la sécurité peut venir de l'extérieur. Alors on prend des assurances, on a des médicaments, on a des murs, on met des barrières, on met des chiens de garde, on achète des fusils, etc., etc. On met des alarmes, on essaie de prévoir et on fait tout ce qu'on peut parce que c'est difficile de vivre dans l'insécurité et puis on veut se rassurer. Parmi les choses qu'on fait pour ça, on fait aussi l'autruche. On met la tête dans le sable pour ne pas voir que la grande majorité de la planète vit dans la terreur, dans l'insécurité permanente, qu'ils n'ont pas les moyens que nous avons, nous, pour essayer d'oublier que nous sommes dans l'insécurité. Et en même temps, quand on s'arrête, c'est pour ça qu'on n'aime pas le faire, et qu'on réfléchit, on voit à quel point ça n'a pas de sens. On n'est nulle part en sécurité. Dans les deux dernières semaines, j'ai failli mourir, ma femme et moi et ma fille, deux fois. Sur l'autoroute, la première fois, j'ai mon tempomate qui s'est bloqué à 133 km à l'heure. Et j'avais un camion devant moi et un camion à gauche. Et plus aucun accès aux freins et aux commandes. J'ai pu passer par la voie d'arrêt d'urgence, doublé par la droite, et ça s'est débloqué un kilomètre plus loin. Mais c'était de nuit. J'ai vu ce camion arriver sur moi, il devait rouler à 80 à l'heure. C'était terrible, quoi. Puis hier, on allait faire un petit tour à Mulhouse, et puis juste devant moi, sur l'autoroute aussi, c'est comme quoi c'est dangereux l'autoroute, marcher à pied, il y a un monsieur qui transportait une remorque avec des palettes, et la palette a sauté sur l'autoroute juste devant nous. Donc réflexe, j'ai mis un coup de volant à droite, mais s'il y avait une voiture ou un camion à côté ou à gauche, j'étais parti, quoi. J'ai pu éviter la palette de ça, et continuer, quoi. Et on se dit, bon, à chaque fois, j'avais ma fille, ma femme dans la voiture, on dit ça tient à rien. Après, on est tout content, on dit, ouais, je suis encore en vie toute la journée, c'est super. Mais toujours est-il que, du coup, maintenant, je roule lentement, je vais m'acheter un hammer, et puis, non. Mais ça, c'est la réponse qu'on essaie d'apporter à notre insécurité. Alors, si j'avais une voiture plus grosse, si j'avais un gros camion, j'aurais pu pousser l'autre camion. Si j'avais une très grosse voiture, j'aurais pu rouler sur la palette. Ou alors, je vais m'acheter un hélicoptère, comme ça, je serais peut-être découpé en tranches. Donc, c'est une tendance naturelle. Et puis, dans le christianisme, on peut aussi retrouver ça sous forme de ce que moi j'appelle les légendes chrétiennes. Ces choses qui ne sont pas vraies, mais qu'on essaie de croire, ou qu'on nous fait croire, ou qu'on a cru, ou qu'on a entendu. Marchez avec Dieu et ça ira mieux, vous n'aurez plus de problèmes, vous serez en bonne santé, vos finances iront bien, d'accord. Alors j'ai dû me tromper parce que chez moi ça ne marche pas, même si ma vie n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas tout à fait ce que je vois. Et puis ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous. Regardez ce que disait l'apôtre Paul donc, dans notre alliance, dans notre époque. Après avoir expliqué que Dieu a mis sa vie en nous, il dit ceci, « Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. » Donc le trésor, c'est la vie de Dieu qui est en nous. « pour que la puissance de Dieu se manifeste. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifeste pour notre corps. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Alors, il y a bien sûr, on peut toujours aller, enfin, on va toujours en tant qu'humain d'un extrême à l'autre. Hein. Et souvent, j'ai dénoncé aussi une fausse façon de voir le christianisme qui était on est désincarné, on n'est que des âmes, il n'y a que l'âme qui compte. Non, on a un corps, on a besoin de manger, de se chauffer, d'être à l'abri. Et Jésus ne s'est pas adressé à des âmes immatérielles, il s'est adressé à des êtres humains qui avaient mal aux pieds, qui avaient des ampoules sous les pieds quand ils marchaient, qui étaient fatigués, qui avaient sommeil. Donc il ne faut pas oublier ça ce matin, mais je parle souvent de ce côté-là. Ce matin, je veux parler d'autre chose. Donc on n'oublie pas ces réalités-là, et puis Dieu est avec nous là-dedans. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui va nous redonner la sécurité que nous cherchons pour vivre sereinement. Dans les différents petits mots qu'on a pu voir, on n'a pas lu toutes les fleurs, mais on a entendu « tu nous donnes la paix », etc. Et nous devons comprendre que pour nous, le fait de connaître Dieu, d'être ses enfants, d'avoir sa vie en nous, ça ne nous apporte aucune sécurité supplémentaire dans le monde visible. On vit comme les gens autour de nous. Alors, si on a le privilège d'être né en Suisse, ben on est plus en sécurité que si on est né en Afghanistan ou en Irak, c'est clair. Et pourquoi, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. On peut dire que c'est injuste, ça l'est peut-être. On ne l'a pas choisi, c'est comme ça. Hein. Mais Dieu ne va pas nous apporter plus de sécurité, parce qu'on le connaît, dans le domaine matériel. Il prend soin de nous, mais il y a des croyants qui meurent jeunes, il y a des croyants qui ont des accidents, il y en a qui sont gardés, il y a des non-croyants qui vivent vieux, ça n'a rien à voir. Les humains vivent leur vie avec beaucoup de mystères. Mais par contre, il y a une chose qui est à notre disposition et qui, celle-là, est accessible en tout temps. Dieu est pour nous un refuge et une forteresse. Et ça, on peut le trouver n'importe quand, indépendamment des situations extérieures. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce que n'avaient pas les gens dans l'Ancien Testament. Peut-être ils devenaient riches, peut-être ils devenaient prospères, peut-être ils devenaient célèbres, on parle d'eux des milliers d'années après, mais il fallait qu'ils aillent au temple, il fallait qu'ils offrent des sacrifices, il fallait qu'un prêtre qui servait d'intermédiaire leur dise « voilà, je vais parler à Dieu de ta part et puis s'il me dit quelque chose pour toi, je viendrai te le dire ». Et nous, nous portons un trésor incroyable dans les vases de terre que nous sommes, nous. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Jésus a dit, je suis avec vous chaque moment, chaque jour, chaque instant, jusqu'à ce que votre monde s'arrête. Et notre monde, ce n'est pas juste la planète sur laquelle on vit. Notre monde, c'est notre vie. Le jour où je quitte cette terre, le monde dans lequel je vis n'existe plus. Donc peu importe ce qui se passe avec le monde dans son ensemble, mais il est avec nous en tout cas tous les jours jusqu'à la fin de notre monde pour chacun d'entre nous. Et à chaque moment de nos vies, nous avons la possibilité, malgré les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises, de trouver ce refuge. Cet endroit où on peut être apaisé et en sécurité. Ce n'est pas automatique, c'est une promesse, c'est à disposition, mais ça ne se fait pas tout seul. Et c'est important qu'on le comprenne parce qu'on passe tellement d'énergie dans nos vies à essayer de sécuriser l'extérieur. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a rien de mal avec ça. Hein. Faites des bonnes études, ayez un bon boulot, essayez d'avoir de l'argent parce que c'est mieux que si on n'en a pas. Vivez le mieux possible, mangez bien pour être en bonne santé si vous pouvez. Tout ça, il faut le faire, c'est du bon sens, Dieu nous a donné des corps, on en prend soin. Mais ça ne nous apportera pas la sécurité et ça ne nous apportera pas ce que nous recherchons vraiment. Hein. C'est ce qui me touche toujours dans ce petit film que Coralie nous a passé. Quand il dit, en fait, qu'est-ce qu'il a reçu, ce gars, pour tout ce qu'il a fait ? Il n'est pas devenu plus riche, il n'est pas devenu célèbre, etc. Mais il a reçu ce que l'argent ne peut pas acheter. C'est une réalité. Et en même temps, on passe tellement peu de temps à développer, à entretenir ce refuge qui nous est proposé. C'est une chose qui m'amusait. Maintenant, je suis 10 ans que je suis là, je suis presque suisse, presque. Non. Ça me surprend plus, mais je me rappelle la première fois de ma vie que je suis rentré dans un de vos abris anti-atomiques dans les caves. Mais ça m'a fait rire. C'était comique, quoi. Cette espèce d'énorme porte en béton que personne ne peut ouvrir ou fermer, avec des joints qui ne fonctionnent plus. Mais les gens se sentaient en sécurité parce qu'il y avait ça dans la maison, quoi. Ah, c'est là. Sauf que, comme maintenant on pense quand même que c'est assez improbable qu'on ait besoin de les utiliser, ils ne sont pas entretenus. Alors j'imagine chez la plupart des gens, comme moi dans la maison que je loue, c'est super parce que j'y mets mes skis, je mets le vélo, je mets les habits d'hiver l'été, les habits d'été l'hiver, je mets mes courges pour tout l'hiver, je mets mes pommes de terre, j'y mets mes oignons. J'y mets tellement de bazar d'ailleurs que je ne trouve jamais rien quand j'en ai besoin. Je ne peux plus y rentrer. Mais en tout cas, ce n'est pas un endroit auquel je pense en me disant « Ah, j'aimerais passer une petite heure là. » Non. Hein ? Quand il faut aller chercher quelque chose dans ce refuge, c'est « Tu y vas, toi ? Non, vas-y, toi. » »« Ah non, j'y étais la dernière fois, c'est à toi d'y aller. »« Ok. Hein, » on prend la lame frontale, le casque d'explorateur, une corde. Puis on dit « Si je ne suis pas revenu en 2 heures, tu appelles les pompiers. » Voilà. Hein. Mais notre vie intérieure, on la traite un petit peu de la même façon. Dieu a prévu à l'intérieur de nous un refuge, cet endroit où on peut vivre avec lui et être sécurisé quand le monde extérieur ne l'est pas, ou même quand ça va bien. Mais enfin, en toutes circonstances, on a cet endroit-là qui nous a été mis à disposition quand on est devenu ses enfants. Et puis, honnêtement, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, si on est discipliné tous les dimanches matin, mais il n'y a plus grand monde qui fait ça tous les dimanches matin, hein, en tout cas en dessous de 65 ans, tous les dimanches matin, on consacre 2 heures pour aller y faire un petit tour, quoi, hein, parce que voilà, on dit on va à l'église. Alors pendant 2 heures, on allume un peu, on regarde si les étagères sont bien en place, et puis on ferme jusqu'à dimanche d'après. Hein. Pour d'autres, c'est 1 quart d'heure tous les matins, ça c'est déjà pas mal 1 quart d'heure, hein. 5 minutes, 3 minutes, je lis mon lecteur, je fais ma petite prière, hein. Ça veut dire j'arrive devant l'abri, ou je rentre pas parce qu'il y a trop le bazar, j'allume, tout va bien, je ferme et je vais vivre ma vie, quoi. Mais en fait cet endroit, ça devrait être l'endroit où on a envie d'aller, notre pièce à nous sympathique, hein. On vire tout ce qui sert à rien. Puis on va commencer par mettre du tapis, et puis des trucs sur les murs, et puis des couleurs, et puis pourquoi pas un petit frigo, et puis de la musique, et puis des bons livres pour moi. Je sais pas, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Hein. Y en a, j'imagine, qui mettent de la gentiane. Sans abus, bien sûr. Hein. Mais on va l'aménager parce que c'est l'endroit où on peut aller se réfugier. Les psaumes nous parlent souvent de ça, hein. Lorsque la terre est bouleversée, lorsque les montagnes sont là, Dieu est pour moi un refuge et un abri. Mais comment ça se traduit concrètement pour nous dans nos vies ? Et puis c'est pas que les problèmes de la vie qui nous font fuir cet endroit, mais c'est aussi l'agitation extérieure que nous entretenons pour ne pas réfléchir. C'est impressionnant l'énergie que l'être humain met dans nos sociétés pour garder la suspension en agitation. Vous savez, hein, quand vous essayez de mélanger l'huile, la moutarde, le vinaigre et tout ça, si vous arrêtez de tourner, ça retombe. Hein. Alors il faut toujours que ça tourne. Hein. On se lève, on met vite une série sur la tablette ou sur l'ordinateur et puis on le tient comme ça jusqu'à ce qu'on soit assis dans la voiture et qu'on allume la radio, parce qu'en conduisant, quand même, on n'ose pas regarder. Et puis après, on met et puis, jusqu'à ce qu'on s'écroule de sommeil le soir, il ne faut surtout pas qu'on laisse retomber l'agitation, parce que sinon, on se dit, en fait, ma vie, elle est vide. Hein. Et pendant ce temps, le refuge, il est là, il existe, mais voilà. Il y a les patates qui pourrissent, il y a les oignons qui moisissent entre les skis, Il y a le snowboard qui est tombé dessous, et puis il y a une bouteille d'huile qui a coulé dessus, et puis... C'est tellement le bazar là-dedans, puis c'est pas accueillant, on n'a pas envie d'y aller. C'est vraiment la corvée quand il faut y aller, ou si vraiment on croit qu'il y a vraiment une guerre atomique, puis on dit, mais comment on ferme la porte? Je ne sais pas, il n'y a plus de joie, j'arrive plus, c'est coincé. C'est un peu tard pour s'en occuper. Et ce n'est pas efficace. Mais on a besoin de développer ce lieu. Parce que Dieu veut être notre refuge, mais il ne peut pas le faire sans qu'on le désire, sans qu'on y consente et sans qu'on prenne le temps, parce qu'il n'y a pas de raccourci pour ça. Hein. Et puis, si vous parlez avec les aînés qui sont à la retraite, ne vous imaginez pas que quand vous serez à la retraite, vous aurez plus de temps que maintenant que vous travaillez ou que vous avez des enfants. C'est pire, hein. Parce que vous n'avez même plus le rythme imposé par le travail qui fait que des fois, vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que vous êtes dans les transports pour aller travailler, parce que c'est la pause au travail, parce que c'est du matin au soir. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises conditions pour ça, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. On devrait. Mais je vous souhaite d'apprendre à vivre dans ce refuge pendant que ça explose. Pour moi, dans mes jeunes années, quand je vivais dans le sud de la France, une de mes passions, c'était d'aller faire de la plongée sous-marine. Enfin, pas avec les bouteilles, là, juste en apnée. Hein. Et une chose que j'adorais, c'était les jours où il y avait énormément de vent, donc des vagues très très fortes. Hein. Donc, vous savez ce que c'est quand vous approchez de la mer et qu'il y a des grosses vagues, même si c'est la Méditerranée, ça remue, il y a du bruit, c'est terrible, quoi. Et puis là, on se prépare sur le rocher. Et puis, vous plongez... Passer 1,50 m, 2 m sous l'eau, il n'y a plus aucun bruit. C'est... Vous savez que là-haut, à la surface, ça continue. Et vous êtes sous l'eau. Tout est au ralenti. Les algues se bougent, mais alors très cool. Quoi. Comme ça. Hein. Tout est tranquille, tout est super. Et puis... Pendant le même moment, ça explose toujours dehors. Hein. Alors bien sûr, on ne tient pas, surtout en apnée, hein, on ne reste pas des heures sous l'eau. Hein. Un petit moment, et là, vous ressortez la tête pour respirer, et vous prenez des vagues, l'écume, et tu... on replonge, et de nouveau. Hein. Et ce qu'il y a de super après, c'est que quand vous vivez ça souvent, vous arrivez au bord de la mer, vous la voyez démonter, et vous n'êtes pas encore sous l'eau, vous savez ce qui vous attend. Hein ? Ça doit être comme ça, notre vie avec Dieu. On est bousculé par la vie, ça fait mal, on est jeté contre les rochers, il y a les moules qui coupent, c'est désagréable. Mais on sait que si on va sous la surface et qu'on descend un tout petit peu, il y a ce lieu de refuge. Alors on ne pourra pas y vivre tout le temps parce qu'on n'est pas les poissons, et puis on n'est pas les sirènes non plus pour les filles, désolé. Hein. Il y a juste des sirènes, des pompiers, de la police, mais pas les autres. Alors, on doit remonter, respirer. On ne peut pas vivre hors de notre corps, dans ce refuge. Mais au moins, quand on sait qu'il est là, on se dit, OK, ça va faire un peu mal pour se mettre à l'eau, mais je vais le trouver. Et ça devrait être quelque chose auquel on consacre du temps, de l'énergie, tous les jours de nos vies. Parce que moi, je vois le temps et l'énergie que je mets pour tout le reste... Faire les courses, payer les factures, machin, aller travailler, revenir, voir les amis, faire ça. Et puis, la journée est finie, zut, je n'ai pas été visiter l'abri. Tant pis, demain, la journée est finie, oh, la semaine est finie, le mois est fini, notre vie est presque finie. Et puis on se dit, zut, je n'ai pas pris le temps. Et c'est tellement dommage parce que ce n'est pas une question de... On ne fait pas ça pour que Dieu soit content ou pas. Lui, de son côté, ça va, hein. Il est en sécurité, il n'a pas peur... Il n'est pas embêté, il maîtrise tout. Mais c'est pour nous. Et puis, on n'a aucune garantie que Dieu va faire que tout aille bien à l'extérieur. Ben, souvent, il le fait, hein, heureusement. Il nous garde des tas de fois, mais des tas de fois, ben, non, ça ne va pas. Les gamins sont quand même malades, ils ont quand même des difficultés. Le patron est imbécile. Il n'y a plus de boulot. La personne au chômage, elle n'est pas sympathique. Les gens à l'église, ouais, bof, etc., etc. Le prédicateur, on ne sait pas ce qu'il dit. Mais Dieu reste le même. Dieu est bon pour nous, il est pour nous un refuge. Hein. Alors pensez-y. Et puis je termine avec le titre, comme ça maintenant. Hein. Assurance anti-épreuve ou refuge dans la tempête. Deux façons de retrouver le paradis perdu. Je vous le relis, allez, puisque c'est un titre. Assurance anti-épreuve ou refuge dans la tempête. Deux façons de retrouver le paradis perdu. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à réinvestir, à investir, à aménager le refuge que tu nous as confié. Parce que si notre être extérieur se détruit, l'être intérieur se fortifie. Et nous avons un trésor au fond de nous. Et puis nous courons partout sans nous en occuper. Alors apprends-nous chacun de façon créative, à la manière qui nous convient, à prendre du temps pour vivre avec toi dans ce refuge, pour en faire un lieu secret de rencontre avec toi. Le lieu où le temps s'arrête et où nous sommes bien dans ta présence, où tu nous apaises, où tu nous réconfortes, où tu nous dis que tout ça aura une fin, parce que tu vas nous prendre avec toi un jour. Mais pour le moment, pour quelques minutes, quelques instants, sous la surface, on peut être tranquille avec toi. Alors vraiment, fais ce travail dans nos vies, fais ce travail dans ma vie. Aide-nous à prendre les bonnes décisions pour pouvoir vivre comme ça. Et puis, garde-nous. Et merci pour ce moment ensemble, ce matin, où nous pouvons nous rappeler que tu es celui qui nous offre un refuge sûr. Parce que ton amour pour nous est sans condition à cause de ce que tu as fait sur la croix, Seigneur. Alors merci pour ça, merci pour la joie et la reconnaissance et la louange que ça produit dans nos cœurs. Et continue de bénir notre temps ensemble. Amen.